Une fois de plus, nous sommes ici pour écouter sa parole, pour faire attention à ce qu'il nous dit, pour que nous le recevions et le suivions selon sa volonté. Avant que nous ne prions, je voudrais lire ensemble une courte parole de psaume tirée du psaume 105. Il est dit ici, psaume 105, verset 1. Louez le Seigneur, invoquez son nom, faites connaître ses œuvres parmi les peuples. Verset 2, chantez pour lui, jouez pour lui, parlez de tous ses prodiges. Verset 3, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur se réjouisse. Verset 4, ayez recours au Seigneur et sa force, cherchez continuellement sa face. Verset 5, souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Verset 6, vous, enfants d'Abraham, son serviteur, vous, fils de Jacob, ses élus. Verset 7, lui, le Seigneur, est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Verset 8, il se souvient éternellement de son alliance, de la parole qu'il a ordonnée pour 1000 descendances. Verset 9, de l'alliance qu'il a faite avec Abraham et du serment qu'il a juré à Isaac. Verset 10, il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Verset 11, disant, je te donnerai le pays de Cana comme héritage qui vous est échu. Verset 12, ils étaient en ce temps-là peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Verset 13, ils devaient aller d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Verset 14, mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux. Verset 15, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Jusqu'ici, ces précieuses paroles de Dieu ou de l'homme de Dieu, nous avons déjà lu ces paroles à maintes reprises et en les lisant, on ne cesse de les méditer. Et ici, c'est nous qui sommes appelés et le peuple tout entier. Louez le Seigneur, invoquez son nom, faites connaître ses œuvres parmi les peuples. Pour cela, nous sommes tenus de dire aux gens ce que le Seigneur a fait pour toi et pour moi, en toi et en moi. Nous sommes tenus de leur apporter le bien que Dieu a fait pour nous tous. Non pas que nous allions raconter aux gens des choses incroyables ou des choses qui nous semblent quelconques, mais ce que le Seigneur a fait pour nous. Et nous devons nous souvenir des actes, de tous les actes que le Seigneur a fait pour nous et qu'il continue à faire aujourd'hui. Je pense qu'en tant que croyants, si nous croyons, en effet, Dieu de tout notre cœur, nous ne pouvons pas faire autrement que de dire aux gens ce que Dieu a fait pour nous à notre époque, ce qu'il nous a accordé, ce qu'il nous a accordé. Et alors, bien-aimés, nous ne pouvons pas ne pas entonner des chants de louange et jouer pour notre Dieu et louer son nom glorieux. Si nous ne le faisons pas, nous pour qui il a tant fait, qui le fera? Je voudrais dire, nous ne voulons pas le faire seulement avec les lèvres, mais du fond de notre cœur, avec une conviction totale. Oui, nous voulons louer son nom et lui apporter la gloire. Oui, il est dit, alors au verset 3, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur se réjouisse. Oui, nous avons reçu avec lui, nous avons pris son nom dans le baptême et nous devons nous réjouir de ce que nous lui appartenons, non seulement pour le temps, mais aussi pour l'éternité. Oui, nous avons reçu avec lui la vie éternelle. Glorifiez-vous de son saint nom. Il relit le verset 3, que le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur se réjouisse. Verset 4, ayez recours au Seigneur et à sa force, cherchez continuellement sa face. Oui, c'est la chose à faire. Frères et sœurs, ce n'est pas une habitude, mais nous nous réunissons toujours pour chercher la face de notre Dieu, pour l'adorer, pour le louer, car il est merveilleux, il est si bon. Pour nous ce soir encore, je crois avec certitude qu'il a beaucoup à nous dire. Le verset 5, souvenez-vous des prodiges qu'il a faits. Nous devons le répéter sans cesse. Et Dieu a fait dire à maintes reprises que le peuple de Dieu ne devait pas oublier toutes les choses qu'il a faites. Et nous l'avons lu ici le week-end dernier, comme cela a été dit au peuple de Dieu. C'était bien dans Moïse qu'il ne devait pas oublier ce que Dieu avait fait et comment il avait marché devant eux et comment il les avait fait sortir d'Égypte. Ils devaient le dire à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Avons-nous lu cette parole? Oui. Et ici, ce psalmiste dit au verset 5, « Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. » Oui, même de nos jours, il a fait des signes et a aussi donné des sentences. Tout ce que la bouche de Dieu dit, que ce soit des sentences ou que ce soit les glorieuses pensées du salut ou la glorieuse parole de Dieu ou les mystères qu'il fait connaître, tout ce qu'il dit, il le met en pratique et il exécute. Et nous sommes si heureux de pouvoir participer à tout ce qu'il a préparé pour nous en ces jours. Le verset 6, « Vous, enfants d'Abraham, son serviteur, vous, fils de Jacob, ses élus. » Le verset 7, « Lui, le Seigneur, est notre Dieu. » Oui, c'est un fait. Nous n'avons personne d'autre à qui nous adresser. Le verset 7, « Lui, le Seigneur, est notre Dieu. » Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Nous voyons, cela vient toujours plus, mais louer et remercier, soit le Seigneur. C'est de tout cela que le Seigneur fera sortir son peuple et le prendra à lui. Attends-toi au Seigneur, mon âme, attends-toi au Seigneur, remets-lui tout, car il aime t'en aider. Ne t'effraie pas, car l'aube se lève et un nouveau printemps succède à l'hiver, dans toutes les tempêtes, dans toutes les détresses, il te protégera. Le Dieu fidèle. Croyons-nous cela? Ce qu'exprime ce cantique? Frères et sœurs, nous pouvons le croire de tout notre cœur et invoquer son nom, le remercier et le louer pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait de bon et d'aimable. Ce soir encore, nous sommes reconnaissants que notre cher frère Frank soit de nouveau parmi nous. Et nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui sont venus ce soir aussi. Que Dieu nous bénisse tous. Telle est ma prière. Levons-nous maintenant pour une prière commune. Père Céleste, nous te remercions de tout cœur. Aussi pour ce soir, pour ce jour, pour cette heure. Seigneur, nous te remercions de nous permettre de nous présenter devant toi avec des cantiques de louanges glorieux, de nous permettre de te louer. Seigneur, tu es notre Dieu, c'est ce que nous avons lu. Et c'est ainsi que nous croyons que tu nous exauces ce soir aussi et que tu nous as déjà exaucés. Seigneur, nous attendons à toi ce soir. Nous sommes de nouveau venus et nous nous rappelons toutes les grandes choses que tu as accomplies de nos jours parmi ton peuple, dans ce monde, parmi les hommes. Tu t'es révélé et tu t'es fait connaître avec puissance. Tu as envoyé ton serviteur et prophète avec ce message de la fin des temps. Seigneur, nous te remercions. Nous louons ton nom merveilleux et nous t'adorons afin que tu puisses venir à ce qui te revient de plein droit ce soir aussi dans ma vie, dans notre vie à tous. Fidèle Seigneur Jésus, je te prie d'enlever tout ce qui te fait obstacle, tout ce qui peut te gêner, tout ce qui peut entraver ta bénédiction. Fais de la place en nous. Nous voulons nous ouvrir entièrement à toi afin que tu puisses nous remplir de ta bénédiction, de ton bon et saint esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur, de plus en plus chaque jour. Nous avons besoin de ta puissance divine ce soir aussi. Mes frères, mes sœurs, nous avons tous besoin de ta présence. Mon frère qui va apporter ta parole, Seigneur, il a besoin de ta puissance divine. Nous tous, Seigneur, nous levons les yeux vers toi et venons le cœur incliné te prier, Seigneur, de nous parler puissamment et de te révéler aussi puissamment, Seigneur. Seigneur, nous t'apportons aussi tous nos frères et sœurs, où qu'ils soient, Seigneur, et nous t'apportons aussi toute détresse au Seigneur. Tu connais chaque cœur. Tu sais ce qu'il en est de chacun. Nous te déposons tout et te prions, Seigneur, de nous accorder ta grâce ce soir encore pour parler, mais aussi pour écouter au Seigneur. Donne, accorde-le-moi, accorde-le à nous tous, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Toujours fidèle à Jésus, toujours fidèle à Jésus. Fidèle à sa croix, jusqu'à ce que nous rentions à la maison. Toujours fidèle à Jésus. Toujours fidèle à lui. Fidèle à sa croix, jusqu'à ce que nous rentions à la maison. Toujours fidèle à Jésus. Toujours fidèle à lui. Fidèle à sa croix, jusqu'à ce que nous rentrions à la maison. Toujours fidèle à Jésus, toujours fidèle à lui, fidèle à sa croix, jusqu'à ce que nous rentrions à la maison. Louange et remerciements au Seigneur. À la fin, tous ceux qui sont restés fidèles seront couronnés. Celui qui persévère jusqu'à la fin, et nous savons que le dernier chemin, le dernier parcours du chemin est le plus difficile, le plus escarpé, le plus épineux, pardon. Mais au bout de ce chemin, les portes de perles s'ouvrent pour tous ceux qui ont été fidèles. Nous avons chanté dans le dernier chant, dans le dernier cantique, ce n'est que là où le doute s'installe que l'ennemi trouve un nouveau courage. Nous n'avons aucune raison de douter. Quelqu'un a dit un jour, frère tel et tel, t'arrive-t-il de douter? Il répondit, oui, je l'avoue, franchement, moi aussi je doute. Mais je vais vous dire ce dont je doute, c'est-à-dire je doute à mes doutes. Et je me suis dit que c'était pas mal, c'était très bien. Il doutait de ses propres doutes, mais pas de la parole de Dieu. J'ai fait exprès de le dire pour que personne ne pense que cela venait de moi. C'est un frère américain qui l'a dit. Mais cela avait beaucoup à me dire. Si nous pouvions douter de Dieu et de la parole de Dieu, ce serait presque impardonnable. Car Dieu est véritable, est vrai. Et dans toutes ses actions, il est fidèle. Il est digne de confiance. Il est crédible. Ce qu'il a promis, il le tient certainement. Il dit même dans ses paroles que si nous devenions infidèles, il resterait fidèle car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2, 13. Et il ne peut pas non plus nous renier car sa fidélité nous est assurée. Et Dieu a des hommes qui n'oublieront jamais ce qu'il a fait pour eux. Et j'ose dire que celui qui a oublié, Dieu doit encore faire quelque chose pour lui. Et depuis que je sais ce que frère Branham a dit, qu'il est possible d'une part d'être béni dans le deuxième domaine avec toutes les bénédictions et d'être loin du Saint-Esprit sans que l'âme en ait été touchée. Depuis lors, je comprends mieux certaines choses et bien des énigmes sont résolues. Vous savez qu'il a tracé les trois cercles et que le plus intime, le plus profond de l'homme est l'âme. Dieu a créé l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Mais le deuxième domaine est le domaine de l'esprit et dans celui-ci, toutes les bénédictions, chaque dont peut être exercé là dans ce domaine. Tout peut être là. Et j'avoue franchement, que pensez-vous du nombre de fois où j'ai eu des sueurs froides, rien qu'à cause de cela, lorsque frère Branham disait avec force, le parler en langue n'est pas encore une preuve que vous êtes des enfants de Dieu. Je devais en effet traduire. Je devais traduire beaucoup de choses. Et j'avais moi-même beaucoup de mal avec ce que je devais traduire. Et je ne pouvais pas encore tout à fait le classer. Mais depuis que nous avons traduit les prédications qui ont été prononcées après l'ouverture des sceaux, beaucoup de choses m'ont parlé. Et j'ai pu voir des lumières s'allumer ici et là. Toutes les bénédictions sont bibliques et sont bonnes. Mais cela dépend toujours de la semence qui se trouve dans notre âme. La pluie est la pluie, mais la semence est la semence. Et la pluie produit la semence qui est maintenant là. Elle produit selon l'espèce de la semence qu'elle a. Et c'est une vérité que le Seigneur a même déjà exprimée dans le sermon sur la montagne, lorsqu'il a dit « Dieu fait briller son soleil sur les méchants et les bons et fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » La pluie tombe sur tout, mais la décision se trouve dans l'âme. Et là, je pense encore à hier, j'ai reçu un appel de Berlin, d'une dame qui vient de la communauté religieuse catholique et qui y est peut-être même encore. Mais elle fréquente une assemblée pentecôtiste et a entendu beaucoup de choses. Et quelqu'un lui a donné des prédications de frère Branham. Et elle a lu très brièvement et a constaté d'emblée que la direction prise revenait à Rome. Donc, la direction prise par elle. Et elle m'a appelé et m'a dit, je suis encore toute nouvelle dans cette affaire de William Branham, mais j'ai constaté que l'assemblée appelée telle et telle retourne à Rome. Et je veux, moi, sortir. Je cherche la vérité. Oui, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et nous voyons que Dieu a son chemin, peu importe où les gens sont, qui ils sont. Lorsque la parole de Dieu leur est adressée, ils peuvent appartenir à l'islam, ils peuvent appartenir à l'hindouisme ou à n'importe quelle religion chrétienne, dite chrétienne. À partir du moment où Dieu revendique leur vie, ils n'appartiennent plus à aucun endroit, mais ils appartiennent à Dieu, qui les a rachetés à un prix élevé par le sang de l'agneau. Et ils trouvent alors leur chemin avec Dieu. Elle a encore appelé aujourd'hui deux fois, et elle était bouleversée. J'aimerais que Dieu appelle encore des gens à sortir, même dans notre pays. Quand je vois les foules dans d'autres pays qui se rassemblent pour entendre, pour écouter la parole du Seigneur, non pas qu'il s'agisse d'une question de masse, mais je voudrais voir le ciel plein. Et les derniers doivent encore être appelés. Et c'est ce que nous faisons avec joie, en levant les yeux vers Dieu. Parfois, je ne sais pas moi-même comment tout cela est encore possible, mais Dieu donne la force. Et puis des frères viennent me tendre la main et me disent, frère Franck, je te donne ma parole. J'ai soutenu dès le début et je soutiendrai jusqu'à la fin que Dieu t'a appelé et que tu agis de sa part, sous son mandat, en son nom. Différentes personnes arrivent. Vous savez que moi aussi, je ne suis qu'un être humain. Et un encouragement me fait parfois du bien. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour vous tous. Je n'ai pas de parole pour l'exprimer, mais le fait que Dieu ait veillé à ce que son œuvre puisse continuer à être accomplie ne va pas de soi pour moi. C'est une grâce de Dieu et il mérite vraiment tous les remerciements et toute l'adoration. Regardons maintenant brièvement dans la parole. Il nous a été dit que nous devons transmettre ce que Dieu a fait et comment pourrions-nous le taire? Comment pourrions-nous passer sous silence ce que Dieu a fait? J'ai récemment parlé à quelqu'un du service de frère Branham et la personne a dit oui, un tel et tel a aussi dit que le service de frère Branham était devenu pour lui une grande bénédiction et c'est tout. Une bénédiction pour beaucoup. Mais à qui une aide réelle, divine, durable, éternelle que nous avons vue par le service, la main tendue de notre Dieu et que nous avons entendu dans tout ce discours la parole de Dieu et que nous sachions qu'il ne s'agissait pas seulement de bénédiction, mais de l'appel à sortir, de la préparation et de l'achèvement de l'Église du Seigneur. Et alors, il est toujours très facile pour moi de dire que beaucoup sont partis et que beaucoup ont prêché et prêcheront encore. Mais qu'un seul homme a été vraiment envoyé par Dieu avec un message divin. Et vous savez bien que seul celui que Dieu a désigné peut le croire. Tous les autres diront, notre prédicateur a son école biblique et chacun sait exactement ce qu'il doit dire. Mais ce n'est plus du tout la question. Le peuple de Dieu a le droit maintenant d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Et c'est encore loin le cas. C'est parce que des gens parlent de Dieu que Dieu parle à travers eux. Loin de là. Mais Dieu s'est choisi des hommes à travers lesquels il peut parler. Tous peuvent parler de Dieu, mais que Dieu puisse parler à travers eux, c'est justement la question. Nous avons probablement lu ici le psaume 105 et aussi la mention de Moïse. J'ai pensé à Joël. C'est le prophète qui parle de la restitution, du rétablissement, de la restauration. Et là aussi, il y a la même formulation, à savoir que cela doit être raconté aux enfants. Joël chapitre 1, verset 2, et ensuite du verset 13. Joël chapitre 1, verset 2. Écoutez ceci, vous les vieillards, et soyez attentifs, vous tous habitants du pays. Y a-t-il jamais eu quelque chose de semblable de votre vivant ou du temps de vos père, verset 3, racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la descendance qui suivra. Ainsi, on racontera ce que Dieu a fait. Les enfants, les parents aux enfants et les enfants à leurs enfants. Oui, les enfants des enfants doivent entendre parler de ce que Dieu a fait. Mais ensuite, la divergence est apportée au verset 13. Nous lisons au verset 13. Revêtez des vêtements de deuil et pleurez, sacrificateurs. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car l'offrande et la libation sont refusées à la maison de votre Dieu. Le verset 14. Publiez un saint jeûne. Proclamez un jour de prière universelle, rassemblez les anciens, tous les habitants du pays, dans la maison du Seigneur, votre Dieu, et criez au Seigneur. Ceci aussi est une parole de Dieu. Avant que le rétablissement de toutes choses ne nous soit directement promis, est présenté au chapitre suivant, au deuxième chapitre, au verset 25. Cette parole nous est dit, nous devons nous rassembler dans la maison de Dieu et crier vers Dieu le Seigneur qui a refusé de donner la libation à sa maison. Ensuite, le verset 25, dit Joël 2, verset 25, « Je vous remplacerai les années dont le produit a été dévoré par les sauterelles, le rongeur, le dévoreur et le ravageur, ma grande armée de guerre que j'avais envoyée contre vous. » Verset 26, « Là, vous mangerez à satiété et vous serez rassasiés et vous louerez le nom du Seigneur votre Dieu. » qui s'est montré merveilleux envers vous. Et jamais à l'avenir, mon peuple ne sera confondu. Verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël et que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et jamais à l'avenir, mon peuple ne sera confondu. Nous connaissons la parole du prophète Ésaïe et aussi l'exécution qui nous est donnée dans les Actes des apôtres et dans les Épîtres. Nul ne sera confondu s'il se confie au Seigneur, s'il fait confiance au Seigneur. Et le compositeur de chants chante, serais-je le premier à être confondu? Non, c'est impossible, ô fidèle refuge. Le ciel tombera avant que ta parole ne me trompe. Et nous croyons donc que la parole de Dieu est aussi vraie que Dieu. Et tout comme on ne peut pas expliquer Dieu, on ne peut pas non plus expliquer sa parole. Mais tout comme on peut croire sa parole, on peut aussi expérimenter Dieu. Voilà ce qu'il en est. Dieu a tout placé sur la base de la foi biblique. Ces derniers jours, j'ai dû réfléchir au fait que tous les prophètes et apôtres se promenaient avec leur titre de docteur et de professeur. Non. Le docteur Siméon, Pierre, le docteur Paul, le docteur Moïse et le professeur Josué, etc. Qui étaient ces hommes de Dieu? Qui étaient-ils? Qui étaient-ils? Des laboureurs, des bergers. L'un d'eux dit, je ne suis pas du tout un prophète. J'ai élevé des taureaux, mais le Seigneur m'a appelé. Et qu'est-ce que c'était? Combien de fois avons-nous entendu parler des périodes de réveil? C'est alors que les agriculteurs n'avaient pas le temps de se laver les mains. Ils venaient au service divin avec les mains sales, mais avec un cœur pur. Et Dieu s'est révélé à eux et Dieu a béni. Et que s'est-il passé? Beaucoup de choses. Je m'en souviens encore très bien. Il y a une bonne vingtaine d'années dans les assemblées pentecôtistes, toute personne appelée par Dieu pouvait prêcher. Aujourd'hui, c'est très difficile. D'abord, l'école biblique a été introduite et tous ceux qui se sentaient appelés pouvaient encore aller à l'école biblique. Mais ensuite, cela a été revu à la hausse. Il y avait trop de gens qui n'avaient pas réussi leurs examens. Et puis, il y a eu le certificat d'études secondaires et après, il y a certainement le baccalauréat et ce qui vient après, nous le savons tous. Mais les hommes de Dieu étaient des gens très simples qui avaient expérimenté Dieu et ils savaient en qui ils croyaient et ils savaient qu'ils ne prêchaient pas leur parole, mais la parole de Dieu. Que pensez-vous si Moïse était allé en tant que berger du troupeau de son beau-père Jéthro avec les moutons là-bas et tout ce qui faisait partie du troupeau et avait dit « Je suis le docteur Moïse ». Je me demande ce que cela aurait été. Et tous ces serviteurs de Dieu. Rappelez-vous donc de la prédication de frère Branham. Dieu révélé dans la simplicité. Ce que le monde considère comme sage, Dieu l'a déjà présenté depuis longtemps comme une folie et il présentera encore le reste comme une folie. Mais ce qui n'est rien aux yeux du monde, il l'a rendu noble, fils et fille de Dieu, race royale, sacerdoce sacré. Il a fait de ceux qui lui font confiance, ceux qui peuvent et qui peuvent croire en lui. Qui sommes-nous? Qu'avons-nous fait pour mériter tout cela? Nous n'avons mérité que la colère, chante un auteur-compositeur. Et nous serons en grâce auprès de Dieu. Et à la fin, c'est la miséricorde et rien d'autre. Bien-aimé, il me tient à cœur que tous ceux qui écoutent encore maintenant la parole de Dieu expérimentent aussi Dieu. Il n'y a aucune valeur à se contenter de proclamer la parole sans que ceux qui écoutent expérimentent Dieu. La proclamation de la parole de Dieu doit être liée à une expérience avec Dieu. Sinon, la proclamation n'a pas été faite dans le but d'atteindre ce pourquoi elle a été envoyée. Et cela m'est venu subitement à l'esprit lorsque j'ai lu les Actes des Apôtres aujourd'hui. Et oui, je n'ai même pas encore lu, j'ai seulement lu. Il s'agit de l'histoire de la conversion de Paul. Je voudrais lire ici Actes des Apôtres chapitre 9. Et c'est surtout le verset 11 qui m'intéresse ici. Je lis le verset 10 et le verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 10 et 11. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi. » Va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Arrêtons-nous sur cette parole, car voici qu'il prie. Le Seigneur l'avait interpellé. Il a eu une rencontre avec le Seigneur. Pas de discussion avec ceux qui l'entouraient, car voici qu'il prie. C'est cette prière qui a poussé Dieu à agir. Cette prière était le prélude à l'expérience avec Dieu qu'il a ensuite vécu dans l'action. Car voici qu'il prie. On ne dit même pas, il est sur le point de consacrer sa vie à Dieu, il est sur le point de se convertir, car voici qu'il prie. Ce qui est lié à une expérience avec Dieu, c'est que nous sommes poussés tout d'abord à la prière. Celui-ci n'a pas demandé si joliment de son plein gré, puisqu'il avait été envoyé pour persécuter les saints et les mettre en prison, etc. Mais cette première rencontre avec le Seigneur a eu pour effet qu'il s'est mis à prier. Et c'est ainsi que Dieu a eu la possibilité de faire en lui le reste qui devait encore être fait. Il pouvait envoyer quelqu'un. Il était préparé par la prière. Il était accordé à cela. Et Dieu pouvait envoyer quelqu'un pour que la vraie conversion puisse avoir lieu. Car voici qu'il priait. Et parce qu'il priait, Dieu a agi et a dit à l'un de ses serviteurs, a parlé à l'un de ses serviteurs, « Va, rends-toi à la ville dans la maison du nommé tel et tel, et là, informe-toi au sujet de Saul, l'homme de Tarse. » Car voici, il prie. Là où les hommes sont vraiment interpellés par le Seigneur. Il n'y a plus de matière à discussion. Là, tous les arguments disparaissent. C'est là que nous sommes conduits à prier dans la présence de Dieu. Et au moment où nous commençons à prier, Dieu ouvre déjà la porte pour se révéler à nous. Car Saul a d'abord été interpellé. C'était le début. Mais la parole du Seigneur a eu pour conséquence de le pousser à la prière. Pour moi, il s'agissait surtout de faire en sorte que la parole du Seigneur nous fasse commencer à prier. La parole du Seigneur déclenche la prière. Donc, par la parole du Seigneur, la prière est déclenchée et ensuite la réponse de Dieu non plus par un discours, mais par une expérience. Non plus par la parole, mais par une expérience personnelle qu'on fait. C'est l'ordre ici. Car lorsqu'Ananias lui a imposé les mains, il s'est posé quelque chose, il s'est passé quelque chose, il s'est exprimé tout simplement au verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Telle fut la réponse. N'oublions pas l'ordre des choses. Le Seigneur s'était d'abord adressé à Paul, à Saul, à lui. C'était la première étape. La deuxième, il a été plongé dans une détresse intérieure et il s'est mis à prier. Et Dieu se mit alors à agir et dit à l'un de ses serviteurs, « Va, impose-lui les mains et ainsi de suite, car voici qu'il prie. Et cette prière a ensuite reçu une réponse par une expérience avec Dieu. Dieu ne répond pas deux fois en parlant. Dieu parle une fois et fait la promesse. Ensuite, nous prions et Dieu ne parle pas une nouvelle fois de la promesse, mais il parle en accomplissant la promesse. Il parle par l'accomplissement de ce qu'il nous a promis. Ensuite, il donne ce qu'il a promis. Ce n'est pas une fois de plus la répétition de la parole du Seigneur, mais l'expérience avec Dieu et la réponse était « Tu recouvreras la vue et tu seras rempli du Saint-Esprit. » C'était ordonné ainsi par Dieu et je pense que c'est la bonne voie. Si le Seigneur nous a vraiment parlé et que nous avons été conduits à la prière, il ne peut en être autrement que Dieu doive répondre. Et je le redis encore une fois, pas à nouveau en parlant, mais en nous donnant l'expérience qu'il a promise à ceux qui sont devenus croyants. Et je pense qu'après avoir entendu tant de paroles du Seigneur, cela devrait nous conduire maintenant à la prière, nous pousser à croire que Dieu pourrait répondre par grâce, que Dieu répondra par grâce. Un autre homme s'est mis à prier, c'était Daniel. Permettez-moi de lire ce passage de Daniel, chapitre 10, du verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Daniel 10, verset 11. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Puis il poursuivit, ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour, alors que tu as eu à cœur à être instruit et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été exaucées. Je m'étais levé pour venir à cause de ta prière. Nous avons ici deux passages bibliques, l'un tiré de l'Ancien Testament et l'autre du Nouveau Testament. Là-bas, un homme à qui le Seigneur a parlé, a prié, et il a pu expérimenter Dieu d'une manière chrétienne primitive, comme c'était le cas dans l'original au début. Ici, c'est Daniel, un homme de Dieu qui est également entré en prière. Il avait déjà deux préoccupations. La première était de diriger son esprit vers l'obtention d'un enseignement. Bien aimé, c'est très important. Il y a aujourd'hui trop de gens qui ont à cœur d'enseigner les autres. Et cela ne leur manque jamais. Il y a ici un prophète qui n'a pas eu dans la pensée de donner des enseignements, mais bien au contraire, de recevoir des enseignements. Voici la chose. Verset 12, et pour t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, ont été exaucées. Le verset 12. Nous avons ici deux choses. Il avait eu à cœur, dirigé ses pensées vers la réception d'un enseignement, mais il savait que pour que cela se produise, il devait s'humilier devant son Dieu. C'était la deuxième étape. Ensuite, il a dit, tes paroles ont été exaucées. Les deux vont de pair. L'enseignement et l'humiliation devant Dieu. Dieu ne nous parle pas pour que nous levions le nez. Dieu nous parle pour que nous nous inclinions dans la poussière devant lui, pour qu'il ait même parlé avec nous, le fait qu'il ait même parlé avec nous. Nous sommes poussière, nous qui sommes poussière. Et nous y voilà. Verset 12, il relit. Alors que tu as eu à cœur à être instruit et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été exaucées. Nous aussi, nous vivons dans un âge prophétique. Nous aussi, nous avons concentré notre attention sur la réception des enseignements divins pour cette époque. Quoi que le Seigneur ait à nous dire. Mais la deuxième étape, nous avons tous toujours deux pieds avec lesquels nous marchons. Et la deuxième est l'humilité devant le Dieu vivant dont nous attendons l'enseignement. Et il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu et ils n'auront pas besoin de s'enseigner les uns les autres en disant, frère, apprends à connaître le Seigneur, mais ils me connaîtront tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ça, c'est la promesse que le Seigneur Dieu a faite. Et voici cette confirmation. Tes paroles ont été exaucées. Et puis encore ce beau complément. Je m'étais levé, la fin du verset 12, je m'étais levé pour venir à cause de ta prière. Là-bas, Saul priait. Et Ananias s'est mis en route parce que le Seigneur lui avait parlé. Voici, il prie. Ici, c'est un prophète Daniel qui veut être instruit, qui s'humilie devant Dieu. Ses paroles ont été exaucées. Et ici, il est dit, je m'étais levé à cause de ta prière pour venir à toi. Ces deux passages bibliques m'ont touché aujourd'hui, juste avant la réunion. Et je pense que cela a été la voix, que cela a été la voix de Dieu avec Paul, avec Daniel, et c'est la voix de Dieu avec les prophètes et les apôtres, avec tout son peuple. C'est ton chemin et le mien avec Dieu. Si le Seigneur nous a parlé, il ne faut pas s'en tenir aux paroles seulement. Il faut prier. Il faut désirer. Il faut aspirer à ce que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Et l'humiliation, l'humilité devant Dieu en fait partie. Elle semble donner à nos paroles la force de traction nécessaire pour que nos prières s'élèvent vers Dieu, l'humilité. Le Seigneur résiste aux orgueilleux, n'est-ce pas? Il fait grâce aux humbles. Et il est écrit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et il ne reste ni aux prophètes, ni aux apôtres, ni à moi, ni à toi, d'autres moyens que de nous humilier devant Dieu, de vouloir recevoir des enseignements, d'entrer en prière, et alors nous aurons la certitude que Dieu nous exaucera. Bien-aimés, je crois que le Seigneur nous a parlé et qu'intérieurement nous ressentons le besoin de prier. Et pourtant nous sommes parfois retenu. Oui, qu'est-ce qui nous retient? Encore comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Joël, rassemblez-vous dans la maison du Seigneur, votre Dieu, avec les sacrificateurs. Et il est même dit là-bas, il a même utilisé la parole « crier, crier ». Eh bien, nous ne voulons conseiller cela à personne, mais si cela devait arriver un jour, n'empêchons personne, car l'Esprit de Dieu peut aussi faire en sorte qu'un tel cri de détresse sorte d'un homme qu'il n'a pas lui-même planifié, mais qu'il n'a pas voulu même, mais qui jaillit quand même. Et alors, soyons vigilants et ne faisons pas obstacle au Seigneur. Permettez-moi de relire ceci, ici, verset 14 de Joël 2, verset 14 de Joël 1. Rassemblez les anciens, tous les habitants du pays, à la maison du Seigneur, votre Dieu, et criez au Seigneur. Vous savez que si quelqu'un doit déjà crier, c'est que la situation est très grave. Alors, elle est très grave. Et ne nous faisons pas d'illusions, la situation est plus grave que ce que nous pouvons peut-être comprendre dans l'ensemble actuellement. Laissons donc cette parole de Dieu nous parler par grâce. Croyez-moi, les personnes à qui Dieu s'adresse sont celles avec qui Dieu a un projet, celles qu'il veut bénir, celles qui doivent vivre ce qu'il leur a promis. Celui à qui Dieu n'a rien à faire, il ne lui parle pas du tout, il ne fait naître aucun désir en lui. Car si Dieu a suscité un désir en nous, il s'est engagé à l'assouvir, à répondre. Est-ce vrai ou non? Ne l'avons-nous pas entendu? Comme nous l'avons dit, Dieu n'aurait jamais pu créer la soif chez l'homme ou dans le monde animal s'il n'y avait pas eu d'eau pour étancher cette soif. Tout ce que Dieu fait en nous, tout ce que nous demandons, tout ce qu'il nous fait désirer, il a déjà préparé pour nous, pour que nous venions à lui et que nous le recevions. Saul avait la vie belle. J'aimerais qu'il en soit ainsi pour nous tous par grâce. Il n'a pas eu besoin d'attendre longtemps. On lui a imposé les mains et tout a été dit en une phrase. Frère Saul, tu retrouveras la vue et tu seras rempli du Saint-Esprit. Il était une armure d'élection et nous croyons que nous appartenons à la race élue. Cela peut paraître présomptueux pour certains, mais nous le croyons de tout notre cœur. Et c'est parce que nous en faisons partie que le Seigneur nous a parlé, qu'il a éveillé en nous un désir par ses paroles et qu'il a suscité ce cri de détresse, cette prière, et qu'il veut par grâce l'apaiser et nous offrir l'expérience que nous lui demandons. Loué soit son saint nom. Amen. Louange et remerciement au Seigneur. Maintenant, levons-nous et prions en action. Père Céleste, nous te remercions ensemble aussi pour ce soir. Oh, pour ta sainte et précieuse parole que tu as remise devant nos yeux, que nous ne l'ayons pas seulement entendue, mais que nos cœurs en soient reconnaissants. Puissions-nous, Seigneur, être nous aussi dans cette situation, que nous soyons, Seigneur, tellement saisis par la puissance de ton Saint-Esprit et que nous puissions crier au Seigneur. Oh Seigneur, fais que cela devienne une chose sérieuse dans nos cœurs, une détresse, Seigneur, car nous voyons, Seigneur, que la détresse est assez grande, oh Seigneur, mais Seigneur, tu es assez grand, Seigneur, pour faire face à toute détresse, oh Dieu. Loué soit ton saint nom. Nous levons les yeux vers toi. Nous t'adorons. Nous te rendons grâce. Nous louons ton nom ce soir ensemble et te apportons la gloire, te rendons gloire. Alléluia. Seigneur, tu es digne d'accepter de recevoir la louange, l'honneur, la gloire et l'adoration au nom de Jésus. Alléluia. Amen.